Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est jeudi noir ce soir avec José, Michel et moi-même.
Jean-Mathias.
Voilà. Et on vous parle ce soir d'un livre qui vient d'être publié aux éditions de L'Éclat, qui s'appelle « D'un noir illimité » de Patricia Farazi. C'est Michel qui va nous parler de ça ce soir. Il s'agit d'un livre qui a une dimension un peu autobiographique, d'après.
Aucune idée. Ça se
pourrait en avoir, qui pourrait avoir une dimension autobiographique et qui nous, dans les personnages en tout cas, nous parle des années 70 et puis de ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc c'est un roman dont il est question ce soir et dont tu vas nous parler. Alors. De quoi s'agit-il ?
Ben d'abord, je voudrais dire deux, trois mots des éditions de L'Éclat, parce que bon, jusqu'ici, en faisant un bref retour sur les émissions passées, je me suis aperçu qu'on avait quasiment causé que des maisons d'édition dites indépendantes, c'est-à-dire souvent en réalité des maisons d'édition pauvres. Et là, je reprends un texte justement du monsieur qui dirige les éditions de L'Éclat, donc Michel Venzi. Et donc je voudrais dire deux trois mots là-dessus, parce que j'avais jamais pensé à prendre un livre de ces éditions, mais pourtant, alors qu'il y en a pas mal que je possède déjà, que j'ai lu, mais plus dans la collection Philosophie, enfin dans la collection Tirée à part, dirigée par Jean-Pierre Cometti. C'est une maison d'édition qui a un sacré catalogue quand même.
Ah, en philosophie, c'est impressionnant, hein, les éditions de L'Éclat. Hein. Ouais. Ils ont publié beaucoup de choses.
Ils ont publié beaucoup de choses. Alors après, c'est de la philosophie dont on parlera pas forcément ici, parce que c'est souvent assez technique, souvent assez peu connu en France aussi. Mais ils font partie de ces éditeurs qui apportent des choses justement qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et de ce point de vue-là, donc ils ont édité. Quelques noms, hein. Dans les années 90, ils ont édité Bouvresse, ils ont édité Jacques Bouvresse, donc on avait interviewé, ils ont édité aussi des choses de Davidson, de Putnam, je crois.
Oui, les traductions de Putnam.
Tout un tas de choses de philosophie essentiellement...
Rationaliste, oui. Anglo-américaine, de très, très très grande qualité. Il y a beaucoup de textes qu'on a connus en français uniquement grâce à leur traduction. Ça travaille,
Donc voilà, donc j'avais pas, par contre je m'étais jamais trop penché sur ce qu'ils faisaient en littérature. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. Alors, quant au roman lui-même, roman de Patricia Farazi qui s'intitule « D'un noir illimité », alors bon, il n'est pas sous-titré roman, mais il se présente comme un roman. C'est la première fois qu'on... Non, c'est la deuxième fois qu'on parle de littérature. Bon, je vais essayer de pas dire trop de conneries. j'en lis beaucoup, j'en parle peu. Donc c'est un exercice qui est toujours délicat. On va pas essayer de trop dévoiler un petit peu l'intrigue, parce qu'il y a quand même une intrigue. C'est un vrai roman, au sens que c'est quelque chose qui raconte une histoire. On n'est pas dans une espèce de postmodernisme ou structuralisme qui s'extasie devant, je sais pas moi, un scolopendre sur un mur.
Devant soi.
Ni même dans la, comment dire, comme tu mentionnais, une possible autobiographie, ça j'en sais rien, mais c'est pas non plus un roman où les gens se curent le nombril trop. Alors, je vous en dis deux, trois mots, simplement sur le début. Donc, ça se passe à Paris, ça semble se passer aujourd'hui, ou à peu près, en tout cas dans les années 2000, et un personnage qui s'appelle Nell, ou Nelly, ça dépend, une insomniaque somnambule, tombe sur Arthur. Dans un bar, vers 5h du matin, Arthur, saxophoniste de génie à peu près complètement inconnu. Arthur qui aussi, accessoirement, enfin c'est pas accessoire en l'occurrence, mais c'est même plutôt essentiel à l'intrigue, Arthur qui était un ami proche de Nell dans les années 70, peut-être même dans les années 80. La datation est toujours floue dans le roman, on sait pas bien où s'arrête, où commencent les choses. Et il a complètement disparu depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, elle le retrouve, il est devenu aveugle, il joue du saxo dans un bar à Paris. Bon. Et à ce moment, alors ça on le verra un petit peu plus tard, mais à ce moment, Nell semble être complètement au point mort. Elle bosse dans une bibliothèque où elle s'ennuie copieusement et elle déambule dans Paris la nuit. Et cette rencontre, alors, avec Arthur, qui n'en semble pas du tout à des retrouvailles, puisqu'Arthur va prétendre ne pas du tout la reconnaître et se sauver comme un voleur aveugle, ce qui est mince affaire. Donc, va en quelque sorte va replonger Nell dans les années où elle a connu Arthur et toute une petite bande qui gravitait autour de, enfin pas autour d'Arthur, quoique la question est compliquée. En tout cas, tout un tas de gens qui étaient ensemble dans les années 70, qui s'étaient rencontrés à l'occasion, sans doute plus ou moins des retombées de mai 68, même ou des retombées de mai 68. Et ça va obliger aussi Nell, cette replongée dans ces années-là, à essayer de découvrir, enfin, à essayer de réexaminer en quelque sorte ces années. Et ce qu'ils faisaient tous ensemble, et d'autre part aussi une petite dimension d'un roman noir, elle va essayer de découvrir ce qui a bien pu arriver à Arthur. Et pour ça, renouer des contacts anciens et mener comme une espèce d'enquête. Alors, je dis roman noir, hein, pas roman policier. C'est très différent. Donc, bon, ça c'est pour le, ouais. C'est pour l'intrigue.
L'intrigue, ouais.
Donc ensuite. Alors on pourrait se poser 2-3 questions, je vais peut-être m'arrêter là pour le récit du roman, parce que bon, on va peut-être pas trop en dévoiler. Ensuite on peut se demander, bon, la question que je me suis posée d'abord c'est, est-ce qu'on a encore affaire à un roman de la génération mai 68?
Le énième.
Le énième, alors moi j'en connais pas forcément énormément, j'ai pensé à 3, qui sont pas forcément tous des romans en plus. J'ai pensé à un roman et à 2 autobiographies. Le roman c'est Tigre en papier d'Olivier de Rolin. Sur lequel peut-être je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, peut-être en mal d'ailleurs là-dessus. Et puis Les Mémoires de Rouillan et Fracture d'une vie de Charlie Bauer. Donc ça c'est dans un autre registre. Après je sais pas si toi tu connais d'autres romans de mai 68.
Non, de fait c'est vrai que...
Parce qu'il y a Génération de Rothman et Bidule, mais c'est pas un roman.
C'est pas franchement un roman.
Roman, qui est plutôt une espèce de compilation des faits héroïques des 68ards qui sont tous parvenus au pouvoir ensuite.
Non, c'est vrai que t'es plus sur un mode de témoignage ou de journalisme plus ou moins amélioré, mais effectivement la forme roman est pas ce qui a été le plus...
Ouais. Pas ce qui a été le plus utilisé. Alors... Je pensais donc à un roman. Donc, est-ce que c'est un roman de génération? Et immédiatement, en me disant ça, j'ai pensé à ce bouquin que tu m'avais fait lire il y a quelques années de ça, de Guy Hockenheim, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Col Mao au Rotary.
Ouais.
Bon, c'est un super pamphlet. Hein. Ouais. Donc, si vous pouvez le lire,
qui
n'a
pas pris grand-chose hein, en termes de ride, je crois que...
Non.
Les dates sont un peu effectivement situées, mais en termes d'écriture et de... De charge satirique, ça se lit bien.
Hein. Et je pense même comme. Il dévoile bien les structures de contestataires qui, justement, tournent Kazakh et se servent de la contestation dont ils ont aidé les héros pour devenir des. Comment dire des.
Ça nous
des,
parle des encore d'une bonne partie de l'armature du parti socialiste et de sa,
de sa
garde
sa cour,
culturelle.
Ouais. Ouais. Donc, le roman de génération, donc je pense à ce que dit Hockenheim, donc génération. Là, je vous le lis. Pendant des années, je m'étais juré à moi-même de ne pas prononcer ce mot. Il me répugne d'instinct. Je n'aime pas l'idée d'appartenir à ce bloc coagulé de déception et de copinage qui ne se réalise et ne se ressent comme tel qu'au moment de la massive trahison de l'âge mûr. On ne devient génération que lorsqu'on se rétracte comme l'escargot dans sa coquille et le repenti dans sa cellule. L'échec d'un rêve, la strate des rancœurs, le précipité qui retombe d'un soulèvement ancien se nomme génération. Alors, alors, en un sens, c'est peut-être le roman de la génération des années 70 qui a vécu 68. Mais ce sens, c'est quoi? Ce serait peut-être plutôt l'échec d'un rêve. Parce que tous les personnages. Comment dire? Alors, je disais un peu après, mais ici, bon, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre, à mettre en place. C'est que d'une part, il semble que le plus important, c'est ce qu'ils ont vécu ensemble dans les années 70. Et là, mais 68 n'apparaît que très rarement dans le roman. Très ponctuellement, il est mentionné. On est là rencontrer un de ses amis, a rencontré Sam sur une barricade. C'est à peu près tout ce qu'on saura de mai 68 et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mai 68 ici semble plus une espèce de détonateur et encore, c'est même pas sûr. Parce que le personnage d'Arthur, le saxophoniste aveugle, lui a commencé sa carrière de paumé avant 68. En allant en Amérique du Sud sans un sou pour jouer du saxo. Bon. Et donc ici, il me semble qu'il s'agit plus finalement d'une la vie des années 70. On pourrait en prendre comme un comme une espèce de prétexte, enfin pas prétexte, mais comme quelque chose qui aurait une valeur plus grande en tout cas que les années 70, mais plutôt comme un de ces moments dans l'histoire où, du fait d'un contexte politique, historique et autres, on a tout un tas de gens qui se retrouvent à sortir de leurs gonds sociaux. Et qui se retrouvent sur des trajectoires qui étaient totalement improbables.
Ça rappelle, on avait parlé l'année dernière d'un un livre de Christine Ross sur 68 qui était sur ce type d'analyse-là.
Complètement. Parce que là, c'est, j'y pensais aussi à ce bouquin-là, comme on en avait passé. Parce que justement, Christine Ross parlait du concept de génération, comme un truc qui visait à dépolitiser 68, en l'inscrivant dans une espèce de cycle naturel. Tous les 20 ans, il y a un conflit. C'est voilà. Ça. Et 68, c'était qu'une espèce de conflit un peu exacerbé. Une poussée hormonale, voilà. Mai, tout ça. Les beaux jours reviennent. Oups, on s'excite. Mais ici, ce qui est plus important, je pense, c'est que côté, ouais, c'est vraiment. On a tout à fait tout un tas de personnages qui sortent de leur gond. Sociaux.
Des trajectoires sur lesquelles on les attendait, quoi.
C'est ça, des trajectoires sur lesquelles on les attendait. Et qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'y reviennent pas. Ne retombent pas bien sur leurs pieds. Alors il y a un personnage qui semble plus ou moins retomber à peu près correctement sur ses pieds, enfin correctement, en tout cas dans un sens, dans ce qui est attendu de lui socialement. Et la question qui va se poser, c'est pas finalement l'histoire d'ex-68ard qui, à force de contorsion et de reniement, on finit par occuper des places de pouvoir, comme Julie, enfin Serge Julie, Roland Castro, j'en passe, et des meilleurs. C'est plutôt l'histoire de ceux qui sont restés fidèles à leurs engagements et qui, arrivés dans les années 2000, se retrouvent finalement dans un monde qui n'offre absolument aucune des perspectives dont ils rêvaient et pour lesquelles ils pensaient lutter activement. Et la question qui semble posée par ce roman, et elle me semble dépasser le contexte 68, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment peut-on vieillir idéaliste? Ou peut-on vieillir fidèlement à ses convictions dans un monde qui les nie? Et ça, je trouve que c'est intéressant, d'autant plus que la dimension violente de ces aspirations est bien montrée. C'est-à-dire que quand on cherche à rompre avec son milieu social ou avec les attentes sociales que ce monde nous impose, ben, ça va pas sans une certaine violence symbolique ou autre. Et ça peut impliquer aussi différentes formes de sacrifices. Bon, si vous connaissez, je pense que pour le coup, je vais encore remplir ce mot. Si chaque génération, parmi ceux qui en tout cas ont voulu essayer de rompre un petit peu avec justement avec les attendus, ben, on a tous connu notre marginal qui est devenu à moitié taré et qui a très mal fini. Soit complètement dingue, soit à l'HP. Ah, José. Je parlais pas de José, là, mais bon, c'est une connaissance commune. Mais ça, je pense qu'il y en a, on en a tous un, au moins, voire deux, trois, qui se retrouvaient embringués dans ces affaires-là. Alors, peut-être qu'ils auraient déraillé sans même s'y embringuer, allez savoir. Mais, en tout cas, c'était aussi une espèce de tremplin à schizo ou à, ou à personne en, on est en quête de marginalisation massive et rapide. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, je dirais pas que c'est le roman d'une génération, parce que ça me semble parler un peu plus qu'à une simple génération. Alors on va passer à un morceau, est-ce que José, où il est parti José? José a disparu. Non. Je voudrais vous passer de la musique, parce que ça fait déjà un certain temps que je parle, et je dois commencer à vous gonfler. José, tu nous passes de la musique?
Pourquoi pas.
Il a dit pourquoi pas, donc j'imagine qu'il va...
My Generation.
C'est lui qui a tweet.
Avec un point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation.
On a bien compris hein, que. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
think what we all Chuckles big sensation She's talking about my generation Cause we could get around
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 à la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui vous parle ce soir d'un roman de Patricia Farazzi qui a été publié aux éditions de L'Éclat et qui s'appelle D'un Noir Illimité. Vous venez d'entendre My Generation des Who et en tout début d'émission vous aurez sans doute reconnu No Means No avec un morceau d'anthologie. Donc voilà, alors on revient à ce livre de Patricia Farazzi, D'un Noir Illimité. Donc tu nous disais au début de l'émission que ça t'avait semblé intéressant comme démarche, parce qu'on a affaire à un roman donc qui parle de ces années 70, de cette espèce de, voilà, de suite, de prolongement de 68 pour des gens qui ont pu prendre ça au sérieux. Et tu disais que c'était intéressant parce que c'était un des rares romans, une des rares expériences pour parler de ces années-là sous forme de roman. Alors que d'habitude, on a plutôt affaire soit à des témoignages, soit bon, à du journalisme, évidemment. Ça, on en a, il y a des dizaines de bouquins là-dessus. Mais parfois, c'est plutôt soit des formes autobiographiques, soit des témoignages. Tu parlais des livres de Rouillan. Sur deux mémoires là que publié chez Agone, ou alors les mémoires de Boer, ou alors le roman effectivement, enfin le roman autobiographique de Rollin sur Tigre en papier. Qu'est-ce qui te paraît du coup original et intéressant dans ce bouquin là par rapport à ce qu'on a pu lire sur ces sujets là jusqu'à présent?
Ben, si je prends l'autre roman, Tigre en papier de Rollin, ce qui m'avait gêné, c'était, au bout du compte, c'était la fin, qui me semblait très très significative. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas lu ce livre, c'est l'histoire d'un type, Rollin, qui a été... Enfin, Rollin, c'est pas forcément, il s'appelle pas Rollin dans le roman, mais on sent bien que c'est lui, qui...
Un ancien maoïste
De la gauche prolétarienne, qui a...
Service
Action,
voilà,
qui a flirté vaguement avec l'enlèvement de patron. Donc ce personnage, dans ce roman Tigre en papier, rencontre une jeune femme, qui est la fille d'un de ses meilleurs potes qui s'est suicidé. Il va passer la nuit avec elle sur le périph', à faire le tour, comme ça, du périph', et à lui raconter, en quelque sorte, la mort de son père, à elle. Et ce roman va recycler tous les fantasmes Mao de la résistance de 39-40, enfin de comment dire, la résistance face à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, le père comment dire, militaire colonialiste. Donc il y a tout un tas de comment dire, tous les vieux thèmes maoïstes finalement qui remontent à la surface. Et la fin est assez édifiante parce que la fille de son ex-pote lui propose à lui la botte. Et ça me semblait tellement caricatural, une façon de dire, d'accord,
on était héros.
D'accord, nous on était des révolutionnaires et on a échoué, mais on bande encore. que c'était bon, un peu triste peut-être comme chose. Là dans ce roman, c'est pas du tout pris sous cet angle-là. C'est pris sous un angle nettement plus on a joué, on a perdu, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Sachant que on rattrapera pas les années perdues, et qu'en plus si les rattraper, ça signifie choisir une autre vie, une vie plus rangée, une vie plus conforme aux attentes sociales, ça non plus on n'en veut pas. Donc il y a plus une espèce de constat d'impasse et d'exploration de l'échec, mais d'une certaine manière ça me semble plus honnête et plus intéressant. Donc, sans parler d'une sorte de distance, toujours un peu ironique, mais sans non plus reniement, enfin, c'est assez subtil, l'attitude, c'est du type, on faisait un peu n'importe quoi, mais on s'est quand même bien marré, sauf que c'est jamais dit comme ça.
Et voyons ce qu'on peut faire.
Et voyons peut-être ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose maintenant, quoi, c'est la question. Et alors, ça, ce serait peut-être pour une comparaison avec Tigre en papier de Rolin. Et sinon, il y a un autre passage qui m'a marqué dans Noir illimité de Patricia Farazzi. Alors, je vais essayer de vous le lire correctement, c'est un peu long. Et lui, il m'a fait penser à un autre témoignage, mais celui de Rouillon. Donc voilà, j'essaie de vous le lire correctement. Donc, où est-ce qu'il vivait, tout ça, dans Paris. Donc elle dit, mais notre monde était tout petit. C'était une ville, et encore, même pas ça. Quelques quartiers dans une ville, quelques rues. Des vraies rues, agitées et crasseuses, jamais tranquilles, pas sûres, pleine de combinards et de rebuts et de petites gens, comme on disait, qui trimaient et ne s'en laissaient pas compter. Des rues qui schlinguent, qui fouettent, avec des latrines publiques, mais seulement pour les hommes. Leur piste nous poursuit jusque dans les cages d'escalier. Nous sommes toujours avec cette odeur dans les narines. Dans les escaliers aussi, ça pue. Les chiottes sur le palier, les odeurs de cuisine grasse, les mômes qui chouinent, les parents qui gueulent, Paris et tous ces quartiers populeux. Quelle aura magique les couronner pour que les fils et les filles de famille viennent s'y incruster. Moi, j'étais passé de Montreuil à Belleville. Ça représentait presque une ascension sociale. Mais les autres? Qu'est-ce qui les poussait à déserter les salles de bain familiales pour venir s'encrasser dans les taudis? C'était hier, et dans cette puanteur, dans cette misère, nous passions comme des anges. Clinquants, colorés, pailletés. Toujours un rêve à la bouche, une idée derrière la tête, un joint dans le bec. Nous étions pleins d'amour. Une vraie rage que nous nous jetions les uns sur les autres jusqu'à la nausée. Nous aimions tous ces miséreux, chacun à leur tour. Nous les écoutions avec ferveur. Nous nous promettions de leur offrir des chiottes en or et l'éclairage public, comme l'autre, le camarade Oulianov. Nous les entraînions dans nos délires, ils nous crachaient la gueule. Notre musique les révulsait, ils se levaient tôt, on n'avait rien à cirer des hurlements de nos vinyles et des saxophones et des guitares. Nos fringues les faisaient rougir, nos amours les faisaient crier au scandale. Notre orgue les inquiétait et bravement nous allions jusqu'au bout. Et les filles en rajoutaient une couche, nous avortions, nous quittions un mec pour un autre. Nous dévoilions tout ou presque, seins, jambes, cuisses, épaules. Alors que dans les églises moches de ce petit bout de monde, les premières communiantes défilaient encore en blanc virginal. Prêtes pour le deuxième round, toujours aussi blanc et virginal, et toujours dans l'odeur des sièges phalliques et des gâteaux à figurines. Seules pour la première cérémonie, puis flanquées d'un pingouin pour la deuxième. L'ancêtre des parmi, faut croire. Tout ça sous les yeux larmoyants, des parentés endimanchés, endettés jusqu'au trognon pour cette bonne cause. Et nous étions là, vêtus de hardes, de nippes, de haillons de soie et de velours, ayant rejeté tout ce qui faisait leur vie, mariage, religion, famille, patrie et ce qui va avec. Tant de siècles de souffrances que nous voulions abolir par la magie des mots. Liberté, imagination, révolution. Plus d'écoles grises où on battait les mômes. Plus de femmes emprisonnées dans leur cage familiale. Plus d'hommes pressurés jusqu'à la dernière goutte par le labeur. Abolir la grisaille et la mesquinerie. Se déchirer de plaisir et non plus de haine. Il y en avait un paquet comme ça. Tous les jours on en découvrait. Ce tout petit monde était à nous, et nous nous proposions de le parfaire, de le recréer meilleur, bien meilleur. Mais meilleur pour nous, pas pour eux. Dans un nuage d'opium et de shit, dans des cristaux d'acide et des frémissements électriques, dans des peaux nues et odorantes frottées les unes contre les autres, dans des festins orgiaques et des kilomètres de blabla. Pas de quoi s'étonner maintenant si leurs arrière-petits-enfants nous revendent notre jeunesse sous silicone. Alors, c'est à quoi ça te fait penser, Jean-Mathias?
Je te vois. Non, j'écoute.
J'écoute. Alors, ce passage, bon, il m'a fait un peu penser, alors, sous un mode un peu différent, à un passage qu'on trouve dans le premier volume des Mémoires de Rouillan, Jean-Jacques Rouillan.
De mémoire, oui. Donc.
De mémoire. Donc, Rouillan, c'est un des fondateurs d'Action Directe, qui avait aussi, dans les années 70, il est parti de Toulouse, lui, il avait participé donc à la lutte contre Franco.
Oui, en passant par l'Espagne.
Il est passé par la lutte armée en Espagne. Et il y a un moment où à Toulouse, justement, quand il est encore autonome, ils font une manifestation dans la rue commerçante de Toulouse avec des espèces d'affichettes disant aux gens vous êtes des cons et des moutons, révoltez-vous. Et d'une certaine manière, je trouve qu'on trouve un peu le même mécanisme, c'est-à-dire une espèce de décalage complet par rapport comment dire, alors peut-être une action politique réaliste, je sais pas, mais enfin, une sorte de contradiction en tout cas dans l'attitude, c'est-à-dire on voudrait vous libérer, en tout cas c'est ce qu'on dit, et en même temps on vous méprise profondément pour ce que vous êtes. Et à partir de là, évidemment, comment faire? Je sais pas.
Non, mais de fait oui, enfin, c'est une problématique assez fréquente, on peut appeler ça la problématique du gauchiste en fait. c'est un peu la quadrature du cercle quoi, c'est soit libre, enfin tu vois.
Oui. Il y a le double impératif contradictoire, voilà, balancer la gueule.
Voilà, soit libre, soit spontané, sort de.
Et en même temps, la différence, c'est que quand Rouillant lui en parle, il en parle à sa façon, c'est-à-dire je n'ai rien renié, moi j'ai tout sacrifié, et vous êtes tous des lâches, ce qui est assez désagréable, je trouve, comme posture.
Ouais, en même temps, Rouillant, il écrit bien parfois, il a un petit côté, il a un côté un peu nostalgique, héroïque, c'est agaçant, ça c'est vrai. Après, bon, on peut lui passer un certain nombre de choses.
Ouais, mais
aussi.
Mais bon, chez Rouillant, il y a quasiment aucune distance. C'est-à-dire que pour le coup, alors peut-être que la distance est introduite dans le récit lui-même.
Oui, moi, par, me semble.
Par lui. Là, la distance me semble plus nette, au sens où dans cette phrase, nous voulions un monde meilleur, mais
pour nous, ouais.
Pour nous, pas pour eux. Après, on voit justement qu'est-ce que ça a été pour eux, en tout cas, que les années 70. Et ça représente peut-être aussi le côté, peut-être, je sais pas, un peu plus artiste de la révolte qu'autre chose, avec aussi sans doute ses limites. Tu vois, changer le monde, transformer la réalité, pour reprendre ce que disait Breton en essayant d'accoler, c'était qui, Rimbaud et Marx. Donc, passer par l'art pour changer les choses, mais aussi passer par les mœurs, et finalement se heurter à un rejet complet de la part de ceux qu'on voudrait libérer. Et ça, c'est peut-être aussi une partie de l'explication de l'échec qui a pu s'en suivre, oui.
Et là, oui, le roman là, nous présente de quoi? Des personnages qui sont des militants politiques ou des...
Alors, c'est très très flou.
D'accord.
A priori, c'est pas des militants politiques, c'est plutôt de. Plutôt la bohème.
D'accord.
Inspiré d'idées politiques et qui va complètement surfer sur les 70s à coup de baise, à coup d'orgie, à coup de. Enfin, d'orgie limitée, j'ai l'impression, mais quand même. À coup de drogue surtout, et puis tout un tas de. D'idéaux assez honorables qu'il voudrait faire passer à travers la photographie, la musique ou le changement, peut-être le changement même de sa propre vie. Tu vois, ne pas vivre autrement, on commence par soi. Et le problème, c'est quand ça ne suit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui fait que justement, dans les années 2000, il y en a un qui se retrouve chef d'entreprise. C'est à peu près le seul. L'autre, le saxophoniste aveugle, vit dans sa maison, dans la maison qu'il a héritée de son père, qui est un pianiste internationalement connu. Mais comme il est aveugle, il l'entretient pas, il s'en fiche, et comment dire, il vit dans 2-3 pièces, dans une maison gigantesque, et puis, mais il est passé par des moments bien plus pénibles où il vivait dans une espèce de grotte, Et, quant à Nel, pareil, elle vit toute seule, elle est retranchée dans son petit appart, et puis elle va bosser quand elle est pas trop crevée, et elle vivote. C'est cet arc aussi qui est intéressant, cette vie, comment dire, de paillettes et de grandes fêtes, finalement des vies de reclus, complètes, ouais. Où qui privilégie l'obscurité, puisque elle vit la nuit, Arthur... Le saxophoniste, lui, est aveugle, donc c'est la nuit perpétuelle. Et quant à celui qui a plus ou moins réussi, si on prend la richesse comme un critère de réussite, lui aussi, on a l'impression qu'il est, d'une certaine manière, si on suit la courbe un peu du roman, qu'il est un peu aveuglé. Ou en tout cas, qu'il a peut-être perdu de vue ce qu'il faisait, ses rêves. Peut-être, en tout cas. Alors voilà donc bon, pour quelques comparaisons qui sont forcément un peu pas terribles. Bon, José, tu nous l'envoies de la musique?
Vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir avec José, Michel et moi-même. Vous venez d'entendre Brutal Juice. Alors, faut que dire deux mots là-dessus. C'est en fait José trouvait que en fait le roman dont nous parle Michel, ça parlait quand même, ça avait l'air quand même de ressembler à un roman qui parlait de hippie, et donc par réaction, il a mis un morceau qui est totalement hors sujet. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Hein, la raison de ça, et Michel me proteste en disant qu'il s'agit pas du tout d'un roman de hippie. Et que c'est beaucoup plus intéressant que ça.
Ils ne font pas que fumer de l'herbe, ils prennent aussi de l'héro. Les hippies et l'héro.
C'est un débat voilà, qu'on a en interne. Donc, on va pas là-dessus.
Tout ça vient des romans de John King et d'une Maxime, d'un des personnages qui dit n'ayez jamais confiance en un hippie.
Voilà.
Et du rejet des hippies par les punks.
Voilà. Mais alors, le roman dont tu nous parles ce soir, Michel, donc, qui s'appelle D'un noir illimité.
Et qui n'est pas un roman de hippie.
Qui n'est pas un roman de hippie, donc de Patricia Faraday. Aux éditions de l'Éclat. Il nous parle donc plutôt de toute une série de personnages qui vivent donc dans la foulée de mai 68 et qui nous présentent donc une espèce de portrait des années 70 parisienne, hein, avec donc un profil sur les personnages plutôt des qui sont pas des militants politiques proprement dit, mais plutôt effectivement des gauchistes plus artistiques, on va dire, ou plus quelque chose de cet ordre-là. Avec une certaine lucidité qui est caractéristique du roman, de ce que tu dis, et qui rend du coup ce récit-là intéressant par rapport à ce qu'on peut lire habituellement sur ces années-là et sur les expériences qui peuvent être apportées.
En plus, je pense que pour traiter la question générale de, en gros, comment vieillit un révolutionnaire qui a échoué à faire la révolution, je suis pas sûr qu'on puisse la traiter autrement que d'une façon romanesque. Enfin, de façon intéressante en tout cas, pour donner.
Plutôt que sur le mode du récit ou de la mémoire un peu gloriole, nostalgico-héroïque, dont on parlait tout à l'heure, là, aussi bien chez.
Et puis parce que aussi quelque chose, un aspect très concret dans un roman qui montre finalement, qui montre des parcours, parcours de vie, comme ça, et qui va les situer, qui va les incarner. Donc, à cet égard, je me demande si la forme romanesque n'est pas mieux indiquée. Que tous ces témoignages à la con, il faut le dire quand même, qu'on peut lire de ci, de là.
Sans parler du reportage,
mais qui lui, passe à un autre niveau d'abomination. Mais.
Tu voulais nous parler d'un personnage en particulier.
Alors, j'ai hésité à en parler parce que j'ai peur de dévoiler tout le suspense et tout ça. Donc, je vais en dire quand même quelques mots parce que c'est intéressant, et puis ça va montrer que malgré toute sa volonté de saboter ce qu'il estime être un roman de hippie, José a échoué en fait, parce que Brutal Juice, c'est jus brutal, donc comprenez ça comme vous voulez. Et en fait, dans ce roman, il y a beaucoup de violence aussi. Mais alors, c'est une violence dans les rapports humains, et c'est une violence qui d'une certaine manière, alors, me semble plus ou moins inévitable quand on cherche à rompre avec le mode de vie qui constitue l'horizon d'attente sociale, enfin, qui est constitué par l'horizon d'attente sociale.
Oui, donc, en gros, classe moyenne ou plutôt aisée, du point de vue.
Plutôt aisée, même.
Famille bourgeoise.
Voire famille bourgeoise. Donc, il y a forcément de la violence là-dedans. La violence contre soi, la violence contre les autres. Je pense pas qu'on puisse en faire l'impasse là-dessus. Et là-dedans, ça va se concentrer en particulier sur une espèce de personnage qui est comme le trou noir du roman, là où tout est aspiré et réduit à néant, qui s'appelle Dita. Alors, et qui, fictif ou pas, dans la mesure où j'ignore la dimension autobiographique du roman, qui, fictif ou pas, fait un très très beau personnage de roman, pour le coup. Une espèce de personnage qui n'apparaît jamais directement, parce que quasiment tous les personnages prennent la parole à la première personne. Nell est la narratrice principale, mais ce n'est pas la seule. Et il y a un personnage parmi les plus importants qui ne prend jamais la parole, c'est Dita. C'est une femme qui est fascinée, complètement folle à la lie. Juste un poison dangereuse, le genre de personne que vous rencontrez dans la vie, vous avez deux possibilités, soit les fuir ou être détruit. c'est à peu près ça. Et donc, cette Dita, elle, est fascinée par les termites, au point de leur vouer un culte, quand même, semble-t-il, parce que ce qu'on sait d'elle est relativement fragmentaire et parfois contradictoire. Ce qui donne d'ailleurs l'occasion à Patricia Faraday de citer, je me serais pas attendu à trouver ça là, hein, mais elle cite une page de La vie des termites de Maeterlinck.
D'accord.
Alors je sais pas si tu vois ce que ça donne, La vie des termites de Maeterlinck.
Non.
Bon, il se trouve que dans la bibliothèque familiale, il y avait La vie des termites de Maeterlinck, La vie des abeilles de Maeterlinck et La vie des fourmis de Maeterlinck.
Bien.
Il n'a pas écrit que c'était quoi, Pélas et Mélisande.
C'est un ami des animaux. Donc.
C'était un ami des animaux. Et donc, page 108, vous trouvez une formidable citation de La vie des termites de Maeterlinck, d'après ce que j'ai pu comprendre, où finalement, alors ça c'est intéressant quand même, donc elle est fascinée par les termites, tu vois, et on voit que, on a l'impression quand on lit La vie des termites, que il parle pas des termites mais des communistes. parce que, je vous lis une petite phrase de cet extrait, donc, c'est que dans la termitière, donc voilà, ouvrez les guillemets, je cite, « Les dieux du communisme y deviennent d'insatiables molochs. Plus on leur en donne, plus ils demandent, et ne cessent d'exiger que lorsqu'un l'individu est anéanti et que son malheur n'a plus de fond. L'épouvantable tyrannie, dont on n'a pas encore d'exemple chez les hommes, où toujours elle sévit à l'avantage de quelques-uns, ici ne profite à personne. » Et donc c'est toute une critique, comment dire, d'une espèce de vie collectiviste. Mais un thème important, il y a ça, je pense, les thèmes politiques qui courent avec les termites, d'une certaine manière, mais c'est de façon très très allusive et obscure, donc je m'amuserai pas à tenter une interprétation de ça. Par contre, un autre thème qui, lui, est plus net, c'est que les termites sont, paraît-il, aveugles. Voilà, le termite est aveugle.
Comme donc un certain nombre des personnages voilà, au sens réel ou figuré.
Comme un certain nombre de personnages au sens réel ou figuré, d'accord. Et donc cette Dita, elle, adore les termites. Un autre de ses passe-temps, semble-t-il, c'est de plus ou moins torturer psychologiquement les hommes pour les asservir. et donc, il me semble que c'est en quelque sorte ce personnage, c'est un peu l'astre obscur autour duquel va tourner tout le roman. À certains égards, d'autant plus que tout le parcours de Nell, la narratrice principale, consistant à, comment dire, à essayer de savoir ce qui est arrivé à Arthur, le saxophoniste, elle ignorait complètement l'existence de Dita. Et donc ça va être aussi une découverte, finalement, de quelque chose qui était là, de quelqu'un qui était là, dont on ignorait l'existence, et qui a finalement plus ou moins bouleversé la donne.
D'accord. Donc c'est un personnage qu'elle découvre au cours de son enquête.
Hein. Voilà. Et après, bon, c'est un personnage qui, justement, va avoir une dimension très très mystérieuse, mais bon. Et alors, enquête, c'est un gros mot, hein. C'est moi qui l'ai balancé, mais bon, y a une petite dimension quand même, comme ça. Et je me demande si Dita aussi, enfin bon, c'est aussi peut-être... alors, est-ce que c'est le symbole d'une certaine violence inhérente à l'époque? Mais bon, est-ce qu'il y a plus de violence alors que maintenant? Ça, ce serait difficile à quantifier. Amusez-vous si vous voulez le faire. Ou est-ce que c'est peut-être une façon de réaliser, enfin, la réalisation des rêves de violence qui parcouraient aussi cette époque, hein, concentré en un personnage qui va avoir qui va être essentiellement destructeur. Là, je sais pas trop. Donc, mais rien que les limites pour le personnage de Dita, je pense que le roman vaut le coup. Même si je pense qu'il vaut le coup pour d'autres choses. Mais ça, c'est un... Je pense que, d'un point de vue romanesque, c'est une assez belle réussite. C'est une espèce de personnage comme ça, qu'on voit jamais, vraiment, qui apparaît de loin en loin, et dont on sent les agissements complètement dingues et destructeurs à l'horizon. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu sur ce roman. Là, je pense que j'ai fini. Alors, au début, je voulais en parler 20 minutes, hein, mais il faut que je dénonce mes compères. José, lui, m'avait dit qu'il parlerait d'un livre, mais il ne l'a pas retrouvé. Bon, voilà. Hein. Jean-Mathias, qui avait entendu José parler d'un livre qu'il était censé retrouver après l'avoir lu, n'a évidemment rien lu, parce qu'il s'est dit, José va parler, et moi, je serai tranquille à la technique. Donc, donc voilà, donc je me suis retrouvé tout seul, comme un con, à devoir parler... d'un bon roman en demeurant, mais un peu solitaire. Voilà.
Ne sous-estime pas cette chronique qui nous a tous mis en appétit, je n'en doute pas, sur un roman et un sujet qui nous intéresse de toute façon. Donc ça, c'est sûr que c'est...
Et ça, essaie de te rattraper en faisant de la lèche.
Non, je ne fais pas de lèche. Je maintiens que... Qui nous a mis en appétit sur ce roman-là.
Voilà, sinon, pour finir l'émission, je peux vous dire deux, trois mots sur des choses que j'ai lues, alors qui sont d'un tout autre ordre. Hein. Petite chronique littéraire de 5 minutes. Bon, si vous aimez la science-fiction, j'adore la science-fiction, je pense qu'il n'y a pas plus philosophique en littérature que la science-fiction, moi je vous recommande un livre d'Alain Damasio qui s'intitule La Horde du Contrevent. Alors Alain Damasio, comment dire, a des sympathies anarcho-syndicalistes, en tout cas au niveau de ses références. Et L'Ordre du Contrevent, c'est un roman absolument fascinant, enfin, quand on aime la science-fiction, qui raconte l'histoire d'un groupe qui est formé, qui est formé depuis l'enfance pour, en quelque sorte, aller justement à contre-vent. Dans un monde, et ça se passe dans un monde où il y a des vents incessants qui vont du nord au sud. Et c'est des vents qui peuvent être extrêmement dangereux, mortels, parce que ça souffle à 400 km/h, ça soulève tout, ça rase des villages, c'est quelque chose de terrifiant. Et alors, le but de l'expédition, c'est de dénombrer toutes les formes du vent qui existent. Alors, il y a un côté très très nietzschéen, très très deleuzien, mais c'est pas trop pesant, c'est pas trop didactique, heureusement, parce que ça deviendrait vite pénible.
C'est édité depuis quand?
C'est édité depuis déjà, ça fait déjà quelques années qu'il a été édité, mais le monde qu'il décrit est complètement fascinant, et cette espèce de parcours, et alors ils y vont à pied. Parce que certains utilisent le vent pour se mouvoir sur des espèces de bateaux, enfin, un peu étranges. Eux, ils vont à pied parce que, d'une certaine manière, il n'y a qu'à pied qu'on peut connaître le vent. Et ils vont toujours aller à contre-vent, parce que justement, ils remontent dans le sens inverse de là où souffle le vent. Donc ça, c'est un roman assez magnifique, un peu long. Mais en plus, une fois n'est pas coutume, c'est de la science-fiction française. Alors, je suis pas du tout nationaliste en littérature, hein, ça je m'en fiche. En revanche, on évite les traducteurs épouvantables, payés 3 francs 6 sous, qui nous donnent des traductions tout simplement abominables, très mal écrites. Donc ils ont comme ça ruiné plusieurs auteurs de science-fiction qui valent le coup. En faisant des traductions atroces. Donc là, c'est écrit directement en français. Et en plus, c'est bien écrit. Ça vaut vraiment le coup. Alors, il a écrit un autre roman qui s'appelle La Zone du Dehors, d'Amasio. D'Amasio, qui lui est moins intéressant, je trouve, parce que beaucoup plus, plus sur des thématiques un peu orwelliennes, d'une société totalitaire, plus ou moins bienveillante. Donc, entre Orwell et Huxley. Et le meilleur des mondes. Mais en revanche, là par contre, c'est imbibé de Deleuze. Et ça rend la chose.
Illisible.
Pas illisible, mais indigeste, en tout cas. Et c'est regrettable. Bon, La Horde du Contrevent, ça c'est beaucoup plus romanesque et nettement plus intéressant. Enfin, on descend toujours plus bas. Cette fois-ci, je vais vous dire aussi 2-3 mots de livres que j'ai lus récemment. C'est des livres qui parlent de zombies. Alors là, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans l'horreur. Et c'est un livre qui va bientôt être adapté au cinéma dans une version, je crois, épouvantable. C'est un livre donc du fils de Brooks, Mel Brooks. Le fils s'appelle Max Brooks.
D'accord.
Et il a écrit un livre qui s'appelle World War Z. Donc la guerre mondiale Z, la guerre mondiale des zombies. Et c'est un livre qui a inspiré, comment il s'appelait ce journaliste américain qui a publié tout un tas de témoignages vachement intéressants, Studs Terkel. C'est un journaliste qui faisait son boulot et qui allait interviewer des gens dans le monde du travail, dans l'armée ou ailleurs, et il passait quelques heures à leur demander de parler de ce qu'ils faisaient. Et ça donne des bouquins passionnants. Et donc il s'inspirait de ça pour emprunter la forme romanesque, l'adapter à son livre. Et en fait, tout le livre, c'est des témoignages compilés de gens qui ont survécu à une épidémie mondiale de zombies.
Ok.
Et alors, ça peut sembler anecdotique, mais à travers le roman, en fait, il va montrer à quel point nos sociétés hyper développées, hyper sophistiquées, sont fragiles. Et à quel point, finalement, un dérèglement un peu important peut les ficher par terre d'une manière mais absolument catastrophique. Parce que, par exemple, ça va toucher la division du travail. Et il raconte, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à devoir organiser la survie et qu'on n'a que des managers et des directeurs marketing.
On a un problème fonctionnel.
On a un problème fonctionnel, ouais. Mais pas qu'un problème fonctionnel. On a aussi un problème politique. C'est parce que ces gens-là, il va falloir les former à faire autre chose, à faire des trucs qui sont utiles dans la situation dans laquelle on est. Et le problème, c'est par qui vont-ils être formés? Par les gens qu'ils avaient l'habitude de payer pour faire des tâches qu'ils méprisaient. Et donc, on se retrouve avec un problème gigantesque. C'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut les, voilà, comment est-ce qu'on arrive à les former. Et donc il y a tout un tas comme ça à travers cet exemple du zombie, c'est-à-dire d'une pandémie qui vient désorganiser la société. Je trouve qu'il y a tout un tas de réflexions assez pertinentes sur le monde dans lequel finalement on vit. Et par exemple aussi pareil sur l'armement. Mettons l'aviation ne sert absolument à rien contre les zombies. C'est une arme complètement inutile. Il faut juste un bon fusil et une bonne organisation. Et donc c'est assez pareil. Donc il se retrouve avec tout un tas de gadgets qui servent strictement à rien.
C'est le zombie comme une expérience de pensée politique et sociale.
Moi je le dis comme ça en tout
d'accord,
cas.
D'accord.
Alors bon, peut-être que vous trouvez cette lecture.
Non, c'est une proposition de lecture qui est stimulante. On va peut-être terminer là-dessus. Bon, de toute façon, toutes ces références, elles seront en ligne sur le site. Le site de l'émission, voilà. N'hésitez pas. Donc, il était question donc ce soir d'un noir illimité
de Patricia Faradi, aux éditions de l'Éclat.
De l'Éclat.
Voilà.
Et donc, si tu as parlé aussi d'un certain nombre
de
romans. Alors, faut pas y voir de lien particulier. Hein. On passe pas des gauchistes des années 70 aux zombies. Il n'y a pas de lien direct entre les deux, aucun. C'est simplement l'émission qui s'est trouvée être comme ça. Donc toutes ces références, vous les trouvez sur le site de l'émission, donc J'ai du noir. Et puis
voilà. Et pour terminer l'émission, on va vous passer un morceau de Kramer qui. Mais voilà, je vous ai dit que c'est de la musique de hippie. Kramer, ça m'étonnerait. Mais et c'est sa attitude. C'est tiré d'un double album qui s'appelle The Guilt Trip, donc le voyage de la culpabilité ou la culpabilité du voyage, je sais pas trop. Voilà, on se retrouve le 14 février, donc pour la Saint-Valentin. On va gâcher votre dîner, votre amoureux avec une émission qui parlera de quelqu'un d'absolument pas recommandable, puisqu'elle sera normalement, si tout se passe bien, consacrée à Cost, performeur. Avant-gardiste, scatophile et autres.
Par avance, bonne fête.